Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh, je me sens stressé le matin. J'ai besoin qu'on prie là, que ça me soutienne. Là. J'ai comme le souffle court un peu, les jambes molles. Mais je pense que c'est normal. Là. Je veux prêcher la parole avec fidélité, avec droiture. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, et vous allez sûrement dire que oui, du Big Bang? Hein? On en a déjà entendu parler. C'est évidemment pas ce que les Écritures enseigne du tout. Hein? Pour dire brièvement ce que le Big Bang enseigne sur le début du monde, par une grosse explosion, ben là, tout à coup, une explosion, elle a été créée par quoi? Par qui? Avec quoi? Bon, ben là, on ne sait pas. Ça sera des questions à répondre pour eux, j'imagine, qui développent cette théorie-là. Et qu'est-ce qui a explosé? Qu'est-ce qui était là aussi? Bref, on ne sait pas. Mais il y a eu une grosse explosion, et là, à partir de cette explosion-là, il s'est créé quelque chose. Il s'est passé une évolution où ce que il y a un équilibre qui s'est placé, une harmonie, par exemple, entre les planètes, un équilibre dans la nature. La vie a commencé et tout ce qui était infiniment précis pour donner la vie, l'équilibre, l'harmonie et toutes ces choses-là ont fait que ça a évolué, que ça a grandi et que là, la vie est apparue. Je vous ai déjà raconté hein, comment je faisais ma chambre sur cette théorie-là. Moi, je prends une bombe, j'envoie ça dans ma chambre, et c'est spick and span après. Hein, ça fait en sorte qu'une grosse explosion comme ça, là, ça met ça super propre. C'est un peu comme une maison. Si on laisse une maison, par exemple, on laisse aller une maison, on s'est déjà promené, par exemple, en campagne, puis on voit une maison abandonnée, peut-être centenaire, peu importe, il n'y a plus personne qui habite dedans, on voit que la maison est en train de se déstabiliser, est en train de tomber, est en train de vieillir. Et s'il n'y a pas personne qui en prend soin, s'il n'y a pas personne qui met de l'ordre et qui rétablit régulièrement l'équilibre, l'harmonie, le nettoyage dans cette maison-là, elle va finir par s'effondrer, évidemment. Avez-vous déjà entendu parler du « small bang »? Probablement pas, parce que c'est moi qui l'ai inventé, le mot du moins. Le mot, c'est moi qui l'ai inventé, mais il y a un concept que je pense qui est biblique derrière l'expression que je veux donner. Il y a eu l'établissement du monde, de l'univers, par un créateur, un concepteur, un architecte qui a réfléchi, qui a pensé aux infinis détails de tout ce qui était nécessaire, obligatoire pour que le monde se tienne. Et dans cela est arrivé le plus élevé de la création que Dieu a donnée, qui était l'homme, l'humanité, Adam et Ève. Et là, dans tout ce que Dieu avait créé, qui était parfait, qui était excellent, qui était beau, est arrivé un petit quelque chose, initialement, un petit quelque chose qui a fait en sorte que l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, tout a commencé à défaillir. Qui était la chute. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, une petite action qui a amené une catastrophe incroyable, une grande catastrophe, un small bang, une petite explosion qui s'est produite dans le jardin où il y avait juste trois témoins, Adam, Ève et puis le serpent, évidemment Dieu. Mais à travers cet événement-là de la chute, comme je disais tantôt, il y a un équilibre qui s'est perdu. Dans la nature, la terre souffre les douleurs de l'enfantement. L'équilibre que Dieu avait créé, qui était parfait, qui était beau, tout cela a été affecté par le péché. Ma relation avec Dieu a été affectée directement par le péché. Ma relation avec les uns et avec les autres a été affectée. Tout a été brisé par cette petite explosion-là qui a eu des répercussions incroyables. Toute la nature, comment est-ce que Dieu l'avait créée, il l'a fait en sorte qu'il a manifesté aussi son caractère, sa stabilité, son équilibre, son intelligence, sa fidélité en toutes choses, que c'était stable et que les choses se passaient bien. Suite au péché, la nature continuellement cherche à retrouver cet équilibre-là. Elle cherche à retrouver cette stabilité-là que Dieu avait créée. Mais il le cherche encore, des fois difficilement, On entend parler de toutes sortes de catastrophes présentement. Je suis pas en train de dire que ça, c'est l'intervention de Dieu spécifiquement. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a des catastrophes qui se manifestent autour de la Terre. On entend parler d'un séisme incroyable en Chine qui tue des gens. Mais la Terre souffre les douleurs de l'enfantement. La création a perdu cette stabilité-là qui était donnée par Dieu. Comme nous, d'ailleurs, on cherche aussi une stabilité. On cherche aussi quelque chose pour pouvoir se poser les pieds puis être ferme dessus. Pour pouvoir être sûr de où ce qu'on est, de pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce que je suis là, et puis que peu importe ce qui va se passer dans ma vie, mais que j'ai les pieds fermes. On va rechercher une stabilité émotionnelle, on va rechercher des stabilités sociales. On serait pas bien si on avait un pays qui était instable. On est béni par Dieu que d'avoir un pays qui nous offre cette stabilité-là actuellement. Il y a des pays qui n'ont pas cette stabilité-là et qui soupirent pour l'avoir. On cherche une stabilité sociale, on cherche une stabilité émotionnelle, une stabilité relationnelle aussi. En quoi cette fidélité-là affecte nos relations? En quoi est-ce que la fidélité, j'ai parlé de stabilité sur différents plans, mais parlons d'un point de vue relationnel. Moi avec Dieu. Ou même d'une stabilité relationnelle entre nous. En quoi est-ce que la fidélité affecte nos relations? Ça l'affecte beaucoup. Ça l'affecte beaucoup nos relations. Ça l'affecte beaucoup ma relation avec Dieu. Est-ce que tu crois à la fidélité de Dieu? Est-ce que tu crois à la stabilité de Dieu, à cette fidélité-là qu'il a? Plusieurs d'entre nous, on va dire que oui, on y croit. Mais ça fait du bien des fois de se replonger dans les Écritures pour dire, c'est quoi la fidélité de Dieu? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce que la fidélité que Dieu a, comment est-ce qu'elle affecte ma relation, moi, avec lui? Parce que la fidélité affecte directement nos relations. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est ce que je veux qu'on retienne ce matin à travers les Écritures. On va tourner dans différents passages. Je vais vous faire tourner ici et là. Mais je veux qu'on regarde ce matin la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. On a besoin de se souvenir de ça. Et pas juste quand on est dans la barque, puis que là qu'on est dans la tempête, puis que là on commence à s'énerver, puis là qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là on se rend compte que Jésus n'est pas déstabilisé en arrière. Puis là, on se tourne vers lui. On a besoin d'avoir cette stabilité-là déjà en commençant. Peut-être même si on n'est pas dans les épreuves maintenant, on a besoin de la fidélité, de s'accrocher à cette fidélité-là que Dieu nous offre. Dieu est fidèle. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière et on va commencer dans notre premier texte ce matin pour voir la fidélité de Dieu. Seigneur, on vient devant toi pour premièrement te glorifier. C'est toi le seul vrai Dieu, le grand Dieu. Tu es notre papa en même temps. Seigneur, on est ici ce matin pour te célébrer, pour te glorifier. Et dans cette célébration-là, on veut que tu nous parles. On veut que ta parole nous parle. On veut apprendre à te connaître, à connaître ton caractère. On voit, Seigneur, comment est-ce que la nature elle-même témoigne de ton caractère, d'une stabilité importante. Comment est-ce que tu es un Dieu qui est fidèle. Et Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, notre intelligence à ta parole. Qu'on puisse te connaître encore plus, pour que, Seigneur, notre vie soit dirigée, soit influencée par ta vie. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Dieu, il est fidèle. On va voir trois domaines à qui Dieu est fidèle. Et la première des choses, Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est fidèle à lui-même. On pourrait dire qu'il est immuable. Dieu ne change pas. Il va se passer le temps, il va se passer des éternités, l'éternité passée, l'éternité future, le présent. Dieu est immuable. Dieu est fidèle à lui-même et ne change pas. J'aimerais que vous tourniez dans Hébreux 1. On va lire deux versets dans Hébreux. En attendant, je vous cite Jacques. Jacques, il dit, pendant que vous tournez dans Hébreux, moi je vais tourner dans Jacques. Jacques 1,16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est fidèle à lui-même. Dans Hébreux 1, on va lire dans Hébreux 1, les versets 10 à 12. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voici ce que les Écritures témoignent sur le commencement du monde. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu ne change pas. Dieu demeure. Imaginez, le monde va passer. On va le rouler comme un vieux vêtement. Mais Dieu, est-ce qu'il change? Est-ce que Dieu va vieillir? Est-ce que Dieu va être passé date un moment donné? Jamais! Dieu est fidèle à lui-même. Dieu, il est immuable de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Tournez dans Hébreux 13, on est déjà dans Hébreux, au verset 8. Et ça inclut Jésus. Jésus ne change pas, Jésus, il est fidèle à lui-même. Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est toujours le même. Il est fidèle à lui-même. Je veux juste vous citer une prière de Moïse dans le psaume 90, les deux premiers versets. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, Dieu est là. Dieu ne change pas. Il est fidèle à lui-même. Pour Moïse, le fait que d'éternité en éternité, Dieu soit là, il témoigne qu'il a été un refuge pour eux, une stabilité, un endroit où on peut se reposer parce que Dieu est toujours là, parce que Dieu ne change pas. Il nous offre cette fidélité-là, cette stabilité-là sur laquelle on peut poser les pieds puis être sûr que peu importe ce qui se passe dans nos vies, on va avoir les pieds posés solidement sur Dieu. Parce qu'il ne change pas, parce qu'il est fidèle à lui-même. Le fait que Dieu soit fidèle à lui-même, comment ça affecte nos vies? Le fait que Dieu soit immuable, qu'il ne change pas, comment ça nous transforme? Comment ça influence notre relation? C'est justement parce qu'il est parfaitement fidèle que nous trouvons, premièrement, une raison suffisante de croire en lui. Parce que Dieu ne change pas. On peut placer notre confiance en lui, notre foi en lui. J'aimerais que vous tourniez dans psaume 91. Je vous ai lu les deux premiers versets, mais on va lire le verset 4. Tantôt, j'ai lu psaume 90, mais là, c'est psaume 91. On va commencer au verset 2 jusqu'à 4. Psaume 91, 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu nous protège, nous rassure, elle prend soin de nous. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. En qui est-ce qu'on va se confier? Mais au verset 2, il dit « Mon Dieu en qui je me confie parce qu'il est notre refuge, il est notre forteresse. » Pourquoi est-ce que David il dit ça dans ses psaumes régulièrement? « Tu es le rocher de mon salut, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. » Dieu ne change pas. Il est fidèle à lui-même. C'est pour ça que c'est important que de développer notre relation avec lui et de comprendre et de développer et d'apprécier sa fidélité. Sa fidélité à lui-même, qu'il ne changera pas parce que je peux me confier les yeux fermés à Dieu. Je sais qu'il ne va pas changer de caractère. Je sais qu'il ne va pas décider de tout balayer du revers de la main parce qu'il a décidé de changer d'idée. Il ne va pas changer d'idée. Il est notre refuge, notre rocher, notre forteresse. Il ne va pas décider demain finalement qu'il ne m'aime plus. Quand Dieu a décidé de m'aimer, il a pris la décision de m'aimer. Il va toujours m'aimer parce que son amour ne change pas, parce que Dieu est fidèle à lui-même. Son amour dure toujours. Sa miséricorde dure toujours aussi. Sa grâce dure toujours. Ses bontés durent pour toujours. Des fois, Dieu, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il disait, je vais exécuter telle chose. Par exemple, à cause de David, mon serviteur, et à cause de mon nom. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu, à cause de son nom, témoigne de son éternité, témoigne de sa stabilité, témoigne de son engagement qui ne changera jamais. Dieu est parfait. L'amour de Dieu est parfait. La miséricorde de Dieu est parfaite. On ne peut pas en rajouter plus. Il ne va pas en enlever non plus. Alors Dieu est fidèle.